j'avais promis de répondre à une question. La question est la suivante. On assisterait dans l'orthodoxie à une forme de triomphalisme. J'ai mis un conditionnel, hein, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais on peut le comprendre aussi. Il y aurait un certain triomphalisme consistant à dire « Nous, les orthodoxes, nous avons la vérité. » C'est pas comme les pauvres non-orthodoxes, je suis délicat, hein, comme les pauvres non-orthodoxes ou les pauvres sans foi, sans loi, sans connaissance divine. Nous, on est quand même supérieurs à eux. Ça peut arriver, une telle attitude. Mais cette attitude-là n'est pas chrétienne, d'abord. Donc, si ça arrive, c'est une faute. Si on se met du côté des pharisiens et non pas du côté des publicains, on n'est pas disciple du Christ. C'est clair. La tentation existe pour tout le monde. Toutes les tentations peuvent exister, y compris celle-là. Et comme attitude en soi, c'est pas juste. Si je conteste cette analyse-là, si je la conteste en partie, parce que je sais que ça existe, et ça existe plus dans certains milieux que dans d'autres, je dois vous féliciter, j'ai jamais entendu ça dans votre communauté, qui est aussi la mienne, mais enfin, j'ai jamais entendu ça. Mais intérieurement, on peut avoir il se peut qu'intérieurement on ait quelquefois une attitude semblable. Et ça, je vous dis, c'est pas juste. Mais je ne pense pas que ce soit si répandu que ça, sauf dans certains milieux. Et c'est condamnable, j'insiste encore. Mais comment faire la part entre la conscience de la vérité et de la vie qui existe dans notre Église et la comparaison avec ce qui est hors de cette Église, avec tous les degrés que vous pouvez imaginer. Comment comparer? Je pense qu'il y a une distinction à faire, une distinction entre l'objectivité de la foi et la subjectivité des personnes, comme dirait la Palice. La foi, la vérité, avec un grand L et un grand V, sont une objectivité. L'objectivité, c'est une petite cuillère et c'est du métal. Mais allez pas me dire que c'est du dessert et que c'est un... je sais pas quoi... que c'est de l'air. La vérité, c'est la vérité. Et dans l'Église, il y a des critères qui permettent de juger, de discerner plus exactement, où est la vérité et où elle n'est pas. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui n'est pas la vérité? Donc là, il y a une objectivité. Et le devoir de tout homme, c'est de chercher où est la vérité et essayer de s'y conformer. Et ça, c'est valable pour tout homme, quelles que soient les époques, depuis les origines du monde jusqu'à la fin du monde, et quels que soient les lieux, c'est dans l'univers, sur la terre entière. Et j'allais même dire, c'est dans l'univers entier, parce que même les anges sont confrontés à ça. On est ou on n'est pas dans la vérité. Les bons anges ont choisi d'être dans la vérité, les mauvais ont choisi de s'en séparer. En disant vérité, en parlant des anges, il faudrait amener des nuances, mais je n'ai pas le temps de faire un cours de théologie, d'amener toutes les nuances nécessaires. Donc, il y a un discernement à avoir sur ce qu'est la vérité. Et comme je vous dis, il y a des critères qui permettent de savoir où elle est, cette vérité, ou qu'est-ce que c'est que la vérité. Tout le monde peut se poser la question. Pilate se posait la question quand il était devant le Christ avant de le condamner. Lui, qu'est-ce que la vérité? Et le Christ n'a rien répondu, parce que la vérité, Pilate l'avait éclatante devant lui, et il ne la voyait pas. La vérité, c'est ce qu'il avait devant lui, c'est-à-dire que lui, Jésus, est la vérité, puisqu'il est Dieu et homme. Et le critère principal de savoir où est la vérité, c'est de reconnaître que le Christ, que Jésus, est Dieu et homme. Mais tout le monde n'a pas la chance, l'occasion, je ne sais pas comment dire, disons, n'a pas la chance, pour être plus général, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir connaître la révélation de notre Dieu qui s'est incarné, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté aux cieux et qui nous a... Je ne vois pas, enfin, les habitants, les peuplades qu'on est en train de faire disparaître allègrement en Amazonie, qui n'ont jamais vu un blanc, fort heureusement pour eux, parce que sans quoi, à chaque fois qu'ils en ont vu, ça leur a amené des maladies, ils en sont morts. Mais n'en ayant jamais vu, donc n'ayant jamais vu, connu le christianisme, ceux-là ne peuvent pas connaître objectivement, sans que ce soit un mal de leur part, sans que ce soit une faute de leur part, ne peuvent pas avoir connu la vérité, justement. Saint Paul dit par ailleurs, notamment dans son épître aux Romains, que tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, et qui ne peuvent pas le connaître, et qui sont honnêtes par rapport à leur propre loi, leur loi leur sert de justification. Donc il y a un salut, le salut est pour eux aussi. Ça ne veut pas dire qu'on les exclut. C'est une parenthèse. Donc il y a l'objectivité de la foi. Après, il y a la subjectivité, justement. Il y a la manière dont on adhère, que l'on découvre, que l'on adhère, que l'on connaît ou qu'on le rejette, la foi. Et là, ça, c'est chacun est légalement libre. Je dis légalement parce que légalement, on peut dire n'importe quoi. Légalement, je peux très bien vous dire qu'il fait trop chaud, très chaud dehors et qu'on crève de chaleur en plein été. Je me trompe, à moins que je ne vous mente, ce qui est encore pire, mais j'ai le droit de le dire. Mais dans cette attitude-là, cette liberté-là nous oblige à ne juger justement personne. Tu prétends que le Christ n'est pas ressuscité, je n'ai pas à te juger. Le fait d'être dans la vérité et de participer à la vie de l'Église, c'est-à-dire à la vie du Christ, ne nous donne pas des droits, mais nous donne des devoirs. Ça ne nous donne pas le droit de juger les autres, ceux qui ne l'ont pas, mais ça nous donne le devoir de rayonner de la vie de celui auquel on adhère, de celui avec lequel on est en communion, de rayonner de cette vie-là de manière à ce que les autres bénéficient de sa lumière. Et si à la suite de cette illumination, disons extérieure, qu'ils reçoivent par l'intermédiaire de ceux qui sont des membres de l'Église, s'ils peuvent faire un pas supplémentaire et adhérer aussi à la même lumière, pas simplement la recevoir, mais y adhérer, vivre avec, là c'est l'idéal. Mais ça, c'est leur liberté. Si bien que dans l'attitude réellement chrétienne, il n'y a pas de quel mot je dis tout à l'heure, de triomphalisme. Ce n'est pas grâce à nous. Nous n'avons pas à tirer gloire pour nous-mêmes d'être dans la vie du Christ, d'être dans l'Église qui est la vie du Christ. On n'en tire pas gloire, mais simplement on en rend grâce à Dieu. Et si on en rend grâce à Dieu, il est impossible de juger ceux qui n'y sont pas. Donc plutôt que de nous donner des droits, nous avons des devoirs à leur égard, des devoirs de charité, de patience et des devoirs missionnaires, si je puis dire, non pas missionnaires aux gens d'aller leur porter la bonne nouvelle et de les forcer à y adhérer, mais de rayonner de cette vie mystique qui est la vie du Christ. La faute du pharisien dans l'évangile que nous avons entendu, la faute, c'était de se vanter de ce qu'il faisait. Sans quoi ce qu'il faisait, de donner la dîme de ses biens, de jeûner comme il le faisait, et de bien d'autres choses que le Christ nomme pas dans sa parabole. C'était que des choses bien, des choses bonnes, c'était normal qu'il le fasse. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'en tirer gloire. Regardez comment je suis. Seigneur, regarde comment je suis. Alors que le publicain, qui n'avait rien de cela, lui avait une relation juste par rapport à Dieu. C'est-à-dire que, alors que le pharisien faisait de sa foi, de sa pratique plus exactement, faisait une richesse personnelle sur laquelle il s'enfermait et dont il se gonflait, Le publicain, lui au contraire, constate qu'il n'a rien, mais a une relation juste avec Dieu, dire « Moi, j'ai rien, mais toi, aie pitié de moi. » Vous voyez pourquoi, et d'une certaine manière, le fait de ne rien avoir, j'extrapole, hein, ne le prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, mais le fait de ne rien avoir, comme il le confessait, de se considérer comme pécheur, c'était en quelque sorte une faute d'être pécheur. Mais, comme vous l'avez lu dans la lecture de juste avant la communion, là, le publicain était humble. Et cette humilité-là couvrait toutes ses fautes, couvrait tous ses péchés. Parce que l'humilité permet à la personne humble de ne pas s'enfermer sur elle-même, mais de s'ouvrir à la miséricorde de Dieu et celle des autres, dont il attend tout. Et ça lui met une relation de communion de cette manière-là. Alors que l'orgueilleux pharisien, lui, n'attend rien de personne, il est satisfait, il est auto-satisfait. Donc, quel salut il peut y avoir pour lui? Et dans ce qu'on condamne, ce qui est condamnable dans les attitudes quelquefois rencontrées de triomphalisme dans l'Église, c'est cette attitude orgueilleuse de dire « Moi, je sais, moi, je vis dans le bien, c'est pas comme le vulgus pecus. » Et ça ne veut pas dire non plus que toutes les doctrines, toutes les nuances de foi chrétienne ou de croyances hétérogènes, de croyances hors du christianisme même, ça ne veut pas dire que toutes ces doctrines-là seraient valables les unes et les autres. Mais nous croyons en un Dieu miséricordieux par essence. S'il est amour par essence, il n'a certainement pas créé des myriades d'hommes pour les condamner. Donc il y a un salut aussi pour tous. Ça ne veut pas dire que tous soient obligatoirement sauvés, parce que Dieu nous a créés libres. Ça veut dire que le salut est ouvert pour tous, même pour les petits Amazoniens. Je parle de petits au point de vue taille. Les Amazoniens qui n'ont pas pu, ou d'autres évidemment, qui n'ont pas pu connaître le Christ, ou d'autres plus proches de nous qui ont pu être scandalisés par des attitudes d'hommes dans l'Église qui les ont empêchés de découvrir la véritable beauté, la bonté de la vie du Christ à travers l'Église. Voilà.
Merci.
Toutes les doctrines ne se valent pas. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous pouvons savoir ce qu'il faut faire quand la Providence et quand les représentants du Christ sont suffisamment lumineux, suffisamment transparents pour nous amener à la connaissance de la vérité qui nous permet d'entrer dans la vie. Donc nous savons ce qu'il faut faire, c'est vivre, c'est toute la doctrine de l'Église en quelque sorte, ce que nous dit le Christ dans l'Évangile, ce que nous rapporte, ce que développe saint Paul et les autres apôtres, ce qu'est le père de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Donc nous savons quel chemin il faut prendre, mais nous ne pouvons en aucun cas juger ceux qui ne sont pas dans ce chemin-là. Le triomphalisme dans l'Église est quelque chose d'impossible. Mais nous pouvons savoir que là est la vérité et qu'elle n'est pas à côté. La vérité, je dis, d'une objectivité, mais reconnaître humblement la vérité n'est pas du triomphalisme.